Manzoni ensuite, mais pour le moment, il est tout juste 9h.
Le journal, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Un nouvel espoir de faire avancer les pourparlers pour une trêve et la libération d'otages à Gaza. Une délégation égyptienne est attendue aujourd'hui en Israël. Et peut-être une amélioration dans l'accès à l'aide humanitaire pour les habitants de Gaza. Le Pentagone vient d'annoncer que la construction du port flottant provisoire avait commencé au large de la bande de Gaza. C'était une promesse de Joe Biden, mais ça n'est pas la solution miracle non plus. Étienne Bonin.
Ce rouage supplémentaire dans l'aide humanitaire a été annoncé il y a un mois et demi par le président américain, au moment où la situation est déjà critique avec les premières victimes de la faim dans le nord de l'enclave.
Tonight, I'm directing the US military to lead an emergency mission.
Le président américain annonce la construction d'une plateforme flottante sur laquelle de gros navires pourront accoster pour confier leur cargaison à de plus petits bateaux qui devraient décharger cette aide sur une jetée construite depuis la côte gazaoui. Les bateaux militaires qui sont actuellement à l'œuvre sont partis de Virginie. Dans un reportage depuis une base américaine, la BBC explique que l'ambition est de fournir 2 millions de repas par jour. La jetée devrait être opérationnelle début. Mais l'Europe souhaite participer à un corridor maritime humanitaire. Chypre fait figure de plaque tournante idéale. Mais ce port ne règle pas le problème de la circulation et de la sécurité dans l'enclave, où les camions entrent toujours en nombre insuffisant.
Étienne Monin, restera pas en France. Emmanuel Macron va proposer à Joe Biden, le président américain, de rester plus longtemps en France. Après les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, l'Élysée espère sa présence les 7 et 8 juin, à la veille de l'élection européenne. Une information du Parisien confirmée par le service politique de France Inter. Le format de cette visite n'est pas encore défini. Dans quelques heures, la flamme olympique sera française. Après son allumage à Olympie la semaine dernière, après un relais partout en Grèce, elle sera transmise ce soir à Tony Estanguet, le patron des Jeux de Paris, après une cérémonie dans le stade antique d'Athènes. Et dès demain matin, la flamme olympique sera à bord du Belém, le plus ancien voilier français, pour une traversée de la Méditerranée de 12 jours jusqu'à Marseille. Les Jeux Olympiques qui approchent donc à grands pas. Et au-delà d'une large moisson de médailles, la France place aussi ses espoirs sur un autre terrain, celui des remontées économiques. Emmanuel Macron a évoqué il y a une dizaine de jours la somme de 6 milliards d'euros investis dans la préparation des Jeux. Pour quel résultat ? Les économistes commencent à sortir leurs calculettes, Fabien Cazot.
Selon les économistes qui ont commencé à travailler sur le sujet, il y a deux types de retombées économiques que la France peut attendre de ces Jeux. Les premières, ce sont les retombées immédiates, celles qu'entraînera pendant l'été la hausse de la fréquentation touristique. 1 200 000 touristes supplémentaires sont attendus en juillet et août. Leurs dépenses de consommation, d'hébergement, de transport viendront alimenter la croissance française. Certains parlent d'une hausse ponctuelle de 0,5% de notre richesse nationale pendant l'été, ponctuelle car la croissance trimestrielle devrait retomber à 0,1% ensuite en fin d'année. L'ordre de grandeur en termes de recettes sera donc de quelques milliards d'euros. C'est toujours bon à prendre, commente-t-on à Bercy, où l'on explique aussi miser sur un second type de retombées économiques, celle à plus long terme, comme par exemple l'impact sur l'image et l'attractivité économique de la France pour les investisseurs, qui dépendra aussi de la manière dont se dérouleront les Jeux.
Fabien Cazot, elles aussi, elles ont la calculette à la main. Les verdicts de printemps des agences de notation Moody's et Fitch sur la dette souveraine française sont attendus tard ce soir. Elles actualiseront toutes les deux leur note de la dette française, moins d'un mois après l'annonce du dérapage du déficit public et alors que la nouvelle trajectoire budgétaire du gouvernement a été remise en cause très récemment par la Cour des comptes. Les dernières données n'incitent pas à l'optimisme. 3 000 milliards d'euros de dette, autant dire que les notes et les commentaires pourraient être rude.
Merci Laurence Thomas, c'était le journal et à suivre 15 minutes de plus avec une exploration des rêves avec la philosophe et psychanalyste Clotilde Le Guil. Ce sera dans quelques instants sur Inter. Bonjour Rebecca Manzoni.
Bonjour Ali, j'ai comme l'impression que vous allez me demander, mais quel est l'invité totémique ce matin ?
Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais donner la réponse. Ce matin, vous allez à la rencontre de Viggo Mortensen.
Vous avez bon, comédien, cinéaste, rendez-vous avec Viggo Mortensen à 9h20. A tout de suite.
Ce samedi sur Inter, la radio de...
Alors moi, évidemment, vous m'avez entendu peut-être faire des sketchs sur France Inter depuis quelques années. C'est Thomas VDB qui vous parle et c'est ma radio.
Pendant une heure, les artistes partagent la playlist de leur vie.
Ben c'est moi qui gère la programmation. Je vais pouvoir mettre tous les morceaux que je veux, les albums qui me mettent des tartes dans la tête aussi.
La radio de...
La radio de Thomas VDB.
C'est ce samedi sur Inter à partir de 21h.
Et j'espère que vous allez m'envoyer plein de mails en me disant hey, « t'as vraiment des goûts géniaux Thomas VDB ».
Merci d'écouter Inter, il est 9h05.
France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
15 minutes de plus et ce vendredi, j'ai le bonheur de recevoir une philosophe, psychanalyste, spécialiste de Lacan notamment. Les auditeurs de France Inter ont pu l'entendre parler du rêve, des énigmes du rêve et de ce qu'ils nous disent dans le podcast L'inconscient et de rêve justement. Il sera question ce matin. Bonjour Clotilde Guil.
Bonjour.
Et bienvenue. Comme chaque vendredi, on va commencer avec une expérience de pensée et merci d'accepter de jouer le jeu. Les rideaux sont tirés. Les lumières sont éteintes, il faut s'imaginer qu'on a les yeux fermés, on est endormi et on rêve. Qu'est-ce qui se joue quand on rêve, Clotilde Guil ?
Eh bien, en effet, le rêve est une véritable expérience de pensée. Je trouve que cette formule s'applique admirablement au rêve, puisqu'il s'agit en effet de la découverte d'une pensée qui est tout autre que la pensée consciente, que la pensée rationnelle, que la pensée éveillée, et que cette expérience s'apparente à certains égards à un voyage, à une odyssée, à un vagabondage, où finalement nous sommes conduits à vivre une aventure sans savoir véritablement où elle nous mène.
Pourquoi dire du rêve que c'est une expérience hors du commun ? Et je vous cite, une aventure subjective qui nous propulse dans un lieu où nous ne pensions pas être.
Oui, c'est-à-dire que à la fois le rêve, pourrait-on dire, est une expérience très commune puisque chacun rêve, chacun peut rêver et c'est même peut-être l'expérience la mieux partagée pour parler comme Descartes.
Oui.
Et en même temps, c'est une expérience qui nous confronte à un territoire nouveau qui est celui qui avait été défini par Freud de l'inquiétante étrangeté, un territoire où se joue une histoire. Histoire qui nous surprend, qui est toujours énigmatique et qui en même temps nous confronte à quelque chose de très intime qui nous concerne mais que nous ne comprenons pas.
Qu'est-ce que c'est l'inquiétante étrangeté ?
Alors l'inquiétante étrangeté, c'est une expérience que Freud a décrite, pas uniquement à travers le rêve, mais qu'on peut faire aussi dans la vie éveillée, qui est une expérience où soudain on peut se sentir perdu dans ses repères quotidiens, comme par exemple lorsque on ne cesse de revenir au même endroit dans une ville alors qu'on voudrait justement se rendre dans une autre destination. C'est l'idée qu'à un moment on fait l'expérience d'être joué par quelque chose, comme par une force.
On est joué.
Voilà, on est joué par quelque chose et on ne saisit pas finalement ce qui nous arrive là. Pourquoi est-ce qu'à un moment, disons, nos intentions conscientes semblent dépassées par une autre force ?
On peut se souvenir de son rêve dans son intégralité, on peut s'en souvenir par fragments, par bribes désordonnées parfois. On peut au contraire l'avoir complètement oublié. Comment expliquer ces différents rapports au rêve ?
Ah ben c'est tout à fait essentiel, et c'est ce que Freud note, c'est-à-dire que le rêve à la fois a un rapport au souvenir et en même temps il a un rapport à l'oubli. Et il est assez rare finalement qu'on puisse dire qu'on se souvient intégralement d'un rêve. Bien souvent on a le sentiment d'avoir fait un rêve beaucoup plus long que ce qui nous revient au réveil, on a le sentiment qu'on a raté quelque chose et qu'il nous reste que des bouts, des fragments de cette matière si précieuse qui semble contenir un secret qu'il nous appartient de révéler. Donc le rêve, c'est à la fois ce dont on fait l'expérience en apercevant qu'on l'a oublié, c'est ça qui est extraordinaire, oui. C'est-à-dire qu'on se dit au réveil, j'ai rêvé, mais j'ai oublié ce dont j'ai rêvé. Et en même temps, vous avez sûrement fait cette expérience aussi à Ali Badou, tout d'un coup, au cours de la journée, il nous arrive quelque chose, on entend un mot, on fait une rencontre, on voit un paysage, et tout d'un coup, la sensation de notre rêve nous revient, et là, il y a quelque chose comme, accidentellement, hein, un retour du rêve qui se fait et qui nous revient en mémoire.
Vous êtes psychanalyste Clotilde Le Guil, et justement, on va s'intéresser à Freud. Tout est parti chez lui d'un rêve, un rêve comme une expérience. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? On est le 24 juillet 1885.
Oui,
il est avec une patiente.
Oui, tout à fait. C'est un rêve qui est essentiel puisque Freud a découvert l'interprétation des rêves en s'intéressant à ses propres rêves. C'est-à-dire que il s'est intéressé à cette expérience qu'il a faite sur lui-même et c'est une expérience qu'il arrive à dater lui-même au cours d'un été, effectivement, en juillet 1895, où il lui arrive quelque chose de tout à fait étrange. C'est qu'il vient d'avoir une conversation avec un de ses confrères du nom de Otto, sujet d'une patiente, qui était sa patiente à lui.
Irma.
Irma, voilà.
Ça et ne s'invente pas.
Voilà, exactement, oui, tout à fait. Et il s'inquiète de savoir si Irma va mieux, et Otto lui dit... Pas tellement, elle va un peu mieux, mais pas tellement. Et suite à cette phrase qui le met un peu mal à l'aise, au fond, sur la cure qu'il a menée avec cette patiente, il reprend ses notes avant de se coucher, il relit la cure. Bon. Et là, il s'endort, et là, il fait un rêve qui le confronte à revoir Irma, qui en effet ne va pas très bien, et qui... dont Freud pense qu'elle souffre peut-être de quelque chose de somatique, et Freud lui demande dans ce rêve, c'est ça qui est extraordinaire, d'ouvrir la bouche pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de sa bouche, se demandant si elle a attrapé une infection. Et ce rêve va s'achever par une injection qui est faite à la patiente, en tout cas Otto qui dit qu'il a fait une injection à la patiente, d'où le titre du rêve, l'injection faite à Irma. Et cette injection, dans le rêve, est dite avoir été faite avec une seringue qui peut-être n'était pas propre. Et le rêve s'achève sur une formule chimique tout à fait étrange, sur des lettres qui apparaissent à Freud. La formule d'un produit chimique qui s'intitule la triméthylamine, et que Freud voit apparaître en caractère gras à la fin de ce rêve. Freud se réveille de ce rêve, et finalement, il s'intéresse à ce qui lui est arrivé dans ce rêve, et il essaye d'interpréter le sens caché de ce rêve. C'est-à-dire qu'il fait l'hypothèse que ce rêve a un sens caché, et le premier sens qui lui vient, c'est qu'au fond, il a essayé à travers ce rêve de répondre à ce malaise qu'il a éprouvé la veille à propos de l'état d'Irma, et qu'il a essayé de faire porter d'une certaine façon la faute sur son confrère qui aurait fait une injection de triméthylamine à Irma. Mais au-delà de ça, ce que Freud découvre avec ce rêve, et c'est pour ça qu'il le considère comme le premier rêve fondateur de la psychanalyse, c'est qu'il découvre que le rêve est fait de lettres à déchiffrer, que le rêve est un rébus et qu'il doit être interprété.
On a toujours essayé d'interpréter les rêves ou on a essayé d'y voir des signes. Pour Freud, le rêve, c'est la voie royale qui mène à l'inconscient. Pourquoi, justement ?
Oui, alors, ce qui est important, c'est de dire que c'est l'interprétation des rêves. Freud dit l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à l'inconscient. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez raison de rappeler à Ali Badou qu'on a toujours pensé depuis l'Antiquité que les rêves avaient un sens, qu'ils pouvaient être un message des dieux et qu'ils pouvaient avoir notamment un sens prophétique, le sens de prédire l'avenir. Et au fond, à cette thèse s'est opposée ensuite, notamment au XIXe siècle, l'idée que le rêve, au contraire, n'avait aucun sens, mais était une production neuronale et qu'il relevait d'un processus somatique. Et ce que Freud apporte, c'est que oui, le rêve a un sens, mais il ne prédit pas l'avenir, mais il révèle plutôt le passé. C'est cela la découverte
de
Freud.
Il révèle le passé.
Il révèle le passé, c'est-à-dire qu'il révèle un désir infantile, inconscient, indestructible, qui est là depuis toujours et qui, déguisé, va se manifester à travers le scénario du rêve.
Clotilde Gild, dans l'un des épisodes du podcast de l'inconscient, vous racontez justement l'un de vos rêves, alors que vous êtes en vacances, déconnecté, vous le dites, vous rêvez de votre boîte mail, elle est saturée par des notifications, et il y a des chiffres qui apparaissent, alors non pas des lettres comme chez Freud, des chiffres qui apparaissent 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez compris de ce rêve et est-ce que nos rêves survivent à l'époque du monde virtuel ?
Oui, mais c'est pour ça qu'effectivement je me suis intéressée à ce rêve, parce que c'est un rêve que j'ai fait au retour de vacances, après justement un moment où je n'avais plus regardé pendant un temps ma boîte mail, et j'ai trouvé très intéressant d'abord que dans ce rêve, cet objet qu'est l'ordinateur, qu'est l'écran, ce rapport à la connexion et au mail, s'introduit, s'immisce dans le rêve. Donc je me suis dit déjà que le rêve entrait vraiment dans le 21e siècle, et il est très, très fréquent d'ailleurs de voir que les patients eux-mêmes font des rêves qui ont à voir aussi avec les SMS, avec un message qu'ils reçoivent par texto ou avec un mail. Et donc, ce qui m'a intéressé dans ce rêve, c'est qu'il y avait quelque chose d'une sorte d'angoisse, d'un trop de messages qui arrivaient et que je ne pourrais pas recevoir tant ces messages étaient infinis. Et ce rêve m'a, disons, conduit à interpréter quelque chose de mon propre parcours analytique et des messages que j'avais pu déchiffrer jusque-là dans mon analyse.
Je reprends l'expression que vous citiez, l'inquiétante étrangeté de Freud. Écoutez.
J'ai cru que si je dormais un peu, le sommeil suffirait à...
Suffirait à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas?
Je ne sais pas qui je suis.
Vous savez bien que vous êtes Rita.
Mais non! Je vous dis que non, mon nom, je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un film magnifique de David Lynch, Mulholland Drive. C'est un cauchemar d'une femme qui a perdu son identité. Qui suis-je ? C'est à cette question que le cauchemar répond.
Oui, alors c'est le cauchemar et le rêve, pourrait-on dire, mais ce qui est extraordinaire dans le film de David Lynch, qui est en quelque sorte son interprétation des rêves et du cauchemar à lui, hein, ce film de 2001, ce qui est extraordinaire, c'est que David Lynch nous fait aussi vivre une expérience de pensée. Parce que si vous vous souvenez de ce film, quand nous le voyons pour la première fois, il y a une première partie que nous prenons pour l'histoire réelle de l'héroïne Diane Selwyn, mais qui, dans cette première partie, porte le prénom de Betty. Et donc, vraiment, David Lynch nous fait vivre cette expérience de pensée où nous allons vivre une histoire mais tout à fait inquiétante, qui à la fois réalise des désirs, qui a une portée érotique très forte, oui, et en même temps très angoissante, parce qu'il y a aussi le surgissement de personnages comme un clochard derrière une poubelle qui nous fait vraiment sursauter et qui fait effraction. Donc on a cette première partie très étrange, et on va avoir une seconde partie qui est là comme un réveil où les personnages sont toujours là mais ne portent plus les mêmes prénoms, et on se demande à ce moment-là, en tant que spectateur, en tant que spectatrice, ce qu'il nous est arrivé. On s'aperçoit vraiment que nous-mêmes, nous avons cru à ce rêve et que l'expérience que nous a fait vivre David Lynch et finalement une expérience à travers le cinéma de nous propulser aussi dans cet univers du rêve où, comme on l'a entendu là dans l'extrait qui est passé, où finalement nous perdons notre identité consciente et nous sommes confrontés au fait d'avoir oublié qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes.
Comment expliquer qu'on puisse prendre le rêve pour la réalité, qu'on puisse être piégé dans le rêve comme si rien ne nous prouvait qu'on n'était pas dans cette expérience subjective dont on parle depuis tout à l'heure?
Mais oui, c'est vraiment, alors ça c'est une question mais vraiment cruciale, c'est qu'en effet, lorsqu'on rêve et même lorsqu'on fait un cauchemar, et je dirais d'autant plus lorsqu'on fait un cauchemar, on est comme confronté à un réel. Il y a quelque chose auquel on croit, quelque chose que l'on suit, quelque chose qui peut même provoquer en nous une angoisse jusqu'à nous réveiller. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas opposer radicalement rêve et réalité. Peut-être que le rêve nous révèle une réalité sous-jacente, une réalité qui a à voir avec notre inconscient, qui a à voir avec nos pulsions et qui a à voir avec nos angoisses.
Vous avez beaucoup travaillé sur les rêves de combattants, de blessés de guerre. Qu'est-ce qu'ils disent, ces rêves-là, de particulier par différence avec les nôtres qui vivons en paix?
Oui, dans mon essai CD N'est pas consentir, je me suis intéressée aux expériences de forçage de consentement et notamment aux traumas de guerre dans la lignée de Freud, puisque vous savez que Freud découvre la question du cauchemar traumatique suite justement au retour du champ de bataille des soldats de la Première Guerre mondiale. Et au fond, il aperçoit là, avec les cauchemars des traumatisés de guerre, qu'il y a quelque chose qui invalide sa première théorie du rêve, sa théorie qui dit que le rêve est la réalisation d'un désir déguisé, et il aperçoit là que le rêve est peut-être autre chose, que le cauchemar vient répéter justement le trauma dont le sujet ne peut pas revenir.
Dernière question, Clotilde Gill, la morale de l'histoire, c'est que le rêve est une histoire ?
La morale de l'histoire, c'est qu'il nous appartient d'interpréter le rêve pour en saisir le chiffre secret.
Merci infiniment d'avoir été l'invité de France Inter ce matin et dans 15 minutes de plus. Bonne journée Clotilde Gill.
Merci à vous.
À 9h20, comme tous les vendredis, c'est Totémique avec Rebecca Manzoni. Aujourd'hui, Rebecca, vous rencontrez celui qui a incarné Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Impossible de l'oublier avant d'être l'acteur fétiche de David Cronenberg. Bref, vous avez eu une conversation avec Viggo Mortensen.
Et je vous informe que la semaine prochaine, il portera éperon et Stetson parce qu'il est cow-boy dans un western qu'il a réalisé lui-même.
Et où est-ce que vous l'avez rencontré, Viggo ?
Comme pour la plupart de ses collègues stars internationales, en fait, dans une chambre d'hôtel où il reçoit pour ses interviews. Mais la différence avec Mortensen, quand même, c'est le temps accordé et la disponibilité du bonhomme. Et alors, pour une première rencontre, en général, qu'est-ce qu'on fait ? Comme tout le monde, on se présente.
Donc moi, je m'appelle Rebecca Manzoni et je suis journaliste. Bonjour. Vous êtes bien Viggo Mortensen ?
Oui, c'est moi. Je peux essayer en français, mais il y a des choses où je peux m'exprimer mieux en anglais.
Ok. Ça peut être entre les deux.
Ok.
C'est l'histoire d'un homme qui n'imprimait pas la pellicule au départ. Et puis son visage fut sur les écrans du monde entier avant qu'il ne tourne des films lui-même. La légende raconte que sur le tournage du Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen s'est cassé une dent qu'il a voulu recoller avec de la colle forte. Le cinéaste Peter Jackson réussit à le convaincre d'aller chez le dentiste, mais Mortensen est tellement habité par le rôle qu'il ira avec son épée et son costume. Cet homme est devenu star mondiale à l'âge de 43 ans avec ce rôle d'Aragorn, avant de commencer l'une des collaborations les plus passionnantes du cinéma contemporain entre un comédien et un réalisateur, parce que c'était Mortensen, parce que c'était Cronenberg. Puis il y eut les films La Route, Green Book et ses films à lui. Viggo Mortensen a vécu en Argentine, au Danemark, aux États-Unis, en Espagne. Son deuxième film comme cinéaste sort en salle mercredi prochain et il s'intitule Jusqu'au bout du monde. Bienvenue pour une échappée avec Viggo Mortensen.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Vous êtes comédien, vous êtes cinéaste, vous êtes poète, photographe, musicien. Qu'est-ce qui vous a ouvert à toutes ces disciplines ?
J'imagine, par exemple, quand très jeune, bébé, j'ai échappé deux fois de notre maison, before I could walk.
Avant de savoir marcher.
C'est ma mère qui m'a raconté ça, je ne me souviens pas. Mais elle se réveillait deux fois et j'étais disparu. Je m'échappais. On m'a trouvé la première fois, c'est notre chien qui m'a trouvé dans la forêt. Et la deuxième fois, c'était un voisin à 400 mètres que j'étais allé dans la maison, dans la cuisine, et ils m'ont trouvé là. Et ils ont téléphoné ma mère. Are you missing something?
Il ne vous manque pas quelque chose?
On avait téléphoné à la police et tout ça. Et j'ai fait ça toute ma vie. Je crois que c'est pas parce que je voulais échapper mes parents, ni la maison, c'est parce que je voulais apprendre des choses, ou explorer, ou voir qu'est-ce qu'il y a, what's outside the house.
Ce qu'il y avait à l'extérieur de la maison.
Et je continue à faire ça. C'est vouloir explorer, apprendre des des choses, mais c'est aussi de, le désir de, d'enregistrer ce que j'apprends et de me souvenir de ce que j'ai appris. C'est une façon de ne pas être passive dans la vie.
Avec qui avez-vous le plus parlé de cinéma jusqu'ici?
Bon, j'ai commencé avec ma mère. C'était la première fois que je suis allé au cinéma, c'était avec ma mère, nous deux. Quand j'avais 4 ans, par exemple, je me souviens que nous sommes allés au cinéma voir Lawrence of Arabia, par exemple.
Lawrence d'Arabie.
Pendant l'entracte, elle m'a demandé « What do you think is going to happen ?» Qu'est-ce que tu penses va se passer dans la deuxième partie? Et j'ai dit « Bon, je pense que Lawrence, il sait monter à cheval ou au chameau beaucoup mieux que les autres Anglais, il va gagner. C'est très simple comme réponse, mais on a parlé de l'histoire. C'était comme si elle, dans une autre vie, elle aurait pu être scénariste ou réalisatrice, je ne sais pas. Jusqu'à la fin de sa vie, on a vu des films ensemble quand j'étais adulte. Chaque fois que je la visitais, on allait au cinéma. « You want to go to the movies? Yeah, let's go. » Et on parlait toujours de l'histoire, de ce qui se passe à l'écran. Pas d'une façon académique, mais je trouve qu'elle était très intelligente. She had very good instincts.
Elle avait un très bon instinct pour les histoires.
Yeah. Et c'est dommage qu'elle n'a pas pu voir l'histoire de Vivienne. Elle aurait beaucoup aimé, je crois, ce film.
L'histoire de Vivienne est au cœur de Jusqu'au bout du monde, deuxième film que Viggo Mortensen a écrit et réalisé. On a quelques images de l'enfance de ce personnage, une gamine intrépide, grandie dans une forêt et qui se passionne pour la vie de Jeanne d'Arc. Une fois jeune femme, Vivienne compte mener sa vie comme elle l'entend. Or, nous sommes en 1860, dans l'Ouest américain. Un jour, elle fait la rencontre d'un cow-boy immigré. Il s'appelle Olsen, il est danois, et le voilà. À l'écran, Vivienne est interprétée par Vicky Creeps, et Olsen, c'est Viggo Mortensen.
Olsen.
First Olsen.
First Olsen.
Vivienne.
Just Vivienne.
Vivienne Lecoudzi.
Ah, enchanté. Vous êtes française?
No.
You're not American.
Yes, I am.
You don't sound like it.
And neither do you.
So where are you from? Vivienne Lecoudzi.
It's a very long story.
I have plenty of time.
Vous avez choisi la forme du western, ce qui suppose un certain nombre de codes. Mais pourquoi le western était la forme qui allait servir au mieux cette histoire?
J'ai grandi comme beaucoup de garçons de ma génération, dans un moment où on pouvait voir des nombreux westerns à la télé et encore au cinéma. Mais je trouvais, entre autres choses, que c'était intéressant de placer une histoire d'une femme indépendante, libre, disons, forte, pas dans notre époque, mais dans l'Ouest, 19e siècle, quand la société était hors de la loi et dominée par des hommes. Je trouvais le contraste intéressant.
Et ce personnage féminin, vous l'avez construit comment ?
Des nombreuses femmes, surtout ma mère. Le film est dédié à ma mère parce que la première image qui m'est venue, c'était d'une fille qui court et rêve dans une forêt de nord-est des États-Unis, forêt d'érables, de chênes. Et j'ai trouvé un endroit pour le tournage qui était presque pareil, identique à où ma mère a grandi, près de la frontière canadienne. L'inspiration, c'était ma mère et des autres femmes que j'ai connues dans ma vie et dans la littérature et dans quelques films aussi.
Pour moi, un des traits de caractère importants de Vivienne, c'est un personnage qui est joyeux au départ.
Oui, il y a des, plein de couleurs que Vicky a apportées.
Vicky Cripps, qui incarne Vivienne.
Oui, au personnage. Il y a plein de moments dans le film où elle s'exprime sans des mots, entre les mots, disons. Les émotions, ce qu'elle pense ou ressent, c'est comme si ses sentiments et ses pensées traversent sa peau et ses yeux, c'est rare. Le moment que j'ai décidé d'essayer d'être acteur dans le cinéma, c'était à cause de l'impression que m'ont donné des nombreuses femmes. Par exemple, des films comme Autumn Sonata, le dernier film de Ingrid Bergman pour Ingmar Bergman.
Sonate d'automne.
Sonate d'automne. Elle et Liv Ullmann.
Ouais.
Aussi des vieux films comme La Passion de Jeanne d'Arc de Falconetti, un film que j'ai vu 100 fois peut-être.
Donc ça veut dire que c'est des actrices qui vous ont donné envie de devenir acteur.
Oui, surtout. Oui, oui. Meryl Streep, des films avec Barbara Stanwyck, par exemple. Ce sont des personnages qui m'ont intéressé.
Beaucoup d'acteurs masculins aussi, mais le jeu de certaines femmes m'ont vraiment frappé.
D'ailleurs, pourquoi à la fin du premier film, vous remerciez Agnès Varda?
Parce qu'elle m'a dit une chose, je l'ai connue une fois. C'était un vol d'avion de Marrakech à Paris. J'ai eu de la chance, j'ai connu Agnès et sa fille Rosalie. Et Rosalie a vu que dans la salle de avant de partir, j'ai parlé avec Agnès, on a parlé du cinéma, tant des choses. Et puis Rosalie a dit, si tu veux changer, tu peux t'asseoir
à côté d'elle,
à côté de ma mère pour le vol. Et c'était pas longtemps avant sa mort. Elle n'était pas bien, elle était épuisée, mais on a beaucoup parlé pendant ce voyage. Et elle a dit une chose que je trouvais très importante pour moi, en tant que réalisateur, c'est... Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu fais maintenant? T'as un rôle à jouer? Non, je suis en train de préparer mon premier film en tant que réalisateur. Ah, ok, et bonne chance, merde. Et tu dois penser à une chose, c'est très important. J'ai dit, c'est quoi? Il ne faut pas montrer des choses au public. Mais c'est un film. Il faut montrer des choses au public. Non. Il ne faut pas montrer. Il faut donner envie de voir des choses. Mais pas les montrer. C'est ça qu'elle m'a dit. Et je pensais, c'est juste.
Laisser de la place au spectateur, en fait.
C'est ça.
Pour son imaginaire.
Pour que le spectateur ait l'opportunité de participer. Je pensais qu'Agnès avait raison parce que j'ai toujours pensé que quand on a fait un film, la première fois qu'on monte le film à une personne, le film devient son film. J'ai fait mon film, mais le moment que je monte le film, c'est pas mon film, c'est ton film. Et on partage, mais on donne une histoire. Et puis, j'aime les conversations avec le public parce que c'est intéressant. Ils viennent quelquefois avec des idées, des perceptions du film que j'avais jamais... Je ne suis pas toujours d'accord avec les idées ou les propositions, mais OK. Et c'est ton film. Si tu penses ça, mais je peux discuter avec toi sur ça ou sur ça, mais il y a des choses que je ne sais pas. Et il se peut que tu as raison.
Après Agnès Varda, dans la voix de Viggo Mortensen dans Totemic, Agnès Varda au micro d'Éclectique en 2012.
Il y avait des spectateurs qui m'ont dit au fond, on a en nous une capacité de s'en aller, de dire zut à tout le monde, de tout refuser. C'est-à-dire l'art, la peinture, les personnages de films expriment quelque chose qui est en nous et qu'on n'ose pas faire, ou qu'on ne sait pas dire. Et moi, j'ai l'impression que des fois, je dis pour d'autres gens des choses que j'ai senties, mais qu'ils sentent aussi, mais ils n'ont pas les mots. Ils n'ont pas la forme. Puis le temps que je travaille, je peux commencer à avoir la forme un peu.
Laurent Barden et Tigre d'eau douce avec Jeanne Hadid pour une chanson qui s'intitule « Meilleur ».
Je suis cœur. Le charme s'évapore et demain à l'aurore, il n'y aura plus sur ma peau qu'une vieille trace d'or salie passée de peau.
Viggo Mortensen et Rebecca Manzoni, Totemic sur Inter France. Non, c'est pas vrai. C'était quoi?
France Inter. Ça veut dire quoi, Viggo, en danois?
Quelques-uns qui disent que c'est guerrier, qui était aux côtés du roi, et il s'appelait Viggo. Il était un homme de confiance.
Non, mais tu te drogues ou quoi? Lui a demandé sa mère. Bah oui, Viggo Mortensen lui avait affirmé être à l'affiche de La Rose Pourpre du Caire de Woody Allen, alors que c'était même pas vrai. Enfin si, son nom figurait bien au générique et il avait effectivement tourné des scènes, mais tout a été coupé au montage. Avec le réalisateur Jonathan Demme, idem, coupé au montage. Nous étions au milieu des années 80 et il faudra attendre Witness pour que Viggo Mortensen entre enfin dans nos rétines. Et surtout The Indian Runner de Sean Penn, où il incarne un vétéran du Vietnam flippant. Pendant ce tournage, il rencontre Dennis Hopper, qui l'encourage à montrer ses photos et publier ses poèmes. Viggo Mortensen se lancera dans tout ça, avant que la gloire n'arrive au début des années 2000 avec Le Seigneur des Anneaux et grand rôle, comme j'ai déjà dit, sous la direction de Cronenberg, etc., etc.
Votre premier film, vous l'avez réalisé, il est sorti en 2020. Depuis combien de temps vous aviez envie d'être cinéaste?
Bon, la première fois que j'essayais, c'était 1984. J'avais un scénario et j'ai trouvé...
Ah
un...
oui, donc c'était 35 ans plus tôt, en fait.
Ouais. Mais j'ai pas pu trouver l'argent pour le faire. Et puis j'ai commencé à travailler plus qu'en tant qu'acteur. Mais il se peut que c'est bon d'avoir été forcé à attendre, parce que depuis 1995, j'ai travaillé avec Cronenberg 4 fois, avec Jane Campion, avec Matt Ross, Anna Peterberg, Lisandro Alonso, des nombreux réalisateurs qui sont intéressants. L'école du cinéma, pour moi, c'était le tournage. Et ça m'intéressait. Il y a des autres acteurs qui se concentrent sur son travail simplement et le texte et ce qu'ils veulent faire sans penser aux autres ou au travail collectif de faire un film. Moi, j'étais toujours intéressé d'être présente au tournage, d'observer et d'apprendre comment faire, comment pas faire.
Alors, j'imagine effectivement de tourner 4 films avec David Cronenberg ou Jane Campion, Lisandro Alonso, etc. C'est des postes d'observation géniaux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, par exemple ?
I think shouting,
crier,
and not listening to people,
et ne pas écouter les gens.
It's not so much
ce n'est pas très amusant de travailler
way,
de cette façon,
one.
Premièrement.
And two, it's
et deuxièmement,
not practical.
Ce n'est pas adapté. Ce n'est
pas la manière efficace de raconter une histoire. Parce que si on se n'écoute pas, si on ne reste pas ouvert aux idées des autres, des choses qui peuvent arriver de n'importe qui, de n'importe où, c'est impossible de faire ton meilleur film.
Et vous aimez diriger les acteurs ?
Oui, oui. La meilleure chose pour les acteurs et pour les réalisateurs, c'est de rester flexible. Si ça marche, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant qui me semble bon pour la scène, je dis rien. J'ai pas besoin, j'ai pas envie de tout signer. De dire, c'est moi qui ai créé ça. Il y a des choses qui sont comme des cadeaux qui me donnent les acteurs ou les membres de l'équipe technique aussi. C'est ça que j'ai appris des femmes, des hommes, des bons réalisateurs que j'ai connus dans ma carrière. C'est rester ouvert aux idées des autres. Une bonne idée peut arriver de n'importe où, n'importe qui.
If you listen, you can hear it call. Whalery. There is a river called the River of No Return.
Pour son deuxième film, Viggo Mortensen s'est lancé dans un western et le personnage principal est une femme. Il y a toujours des femmes dans les westerns. La plupart du temps, elles sont bonne épouse ou prostituée ou prisonnière des Indiens ou chanteuse de saloon, comme dans La rivière sans retour d'Otto Preminger avec Marilyn Monroe que vous entendez chanter là sous ma voix. Dans ce film, Marilyn partage l'affiche avec Robert Mitchum. Donc les femmes ont rarement le premier rôle dans les westerns. Il y a bien Johnny Guitar qui met en scène deux femmes rivales. Mais avec Jusqu'au bout du monde, Viggo Mortensen voulait faire quoi ?
L'idée, c'était de faire un film dans le genre du western classique, mais avec la différence importante que nous nous concentrons sur le personnage féminin principal et que quand son partenaire masculin part à la guerre, on reste avec elle. C'est différent. On ne voit pas ça normalement dans le western classique. Ben, il y a plein de choses qu'on ne voit pas normalement dans les western classiques. Par exemple, la variété des langues ou des nationalités. On le voit de temps en temps, mais normalement, les personnages principaux sont toujours des anglos et on pense que, bon, dans l'Ouest, tous les gens parlaient comme s'ils venaient de la Californie ou de Texas, et pas d'autre chose. Il y a toujours des Mexicains et des Native Americans.
Des Amérindiens.
Et tout ça, mais. But they're never the main characters.
Mais ils ne sont jamais les personnages principaux.
Bad people or incidental.
Des méchants, accessoirement.
Et dans cette histoire, je voulais montrer un peu plus la vérité ou faire raconter une histoire historiquement fidèle ou correcte.
Ce qui raconte les États-Unis, en fait.
C'est ça. C'était la vérité en ce moment et maintenant. c'est seulement des nationalistes aveugles qui disent des choses comme la France pour les Français ou les États-Unis pour les Américains. Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas, ça n'a pas existé, jamais.
Vous maîtrisez plusieurs langues, l'anglais, le français, l'espagnol, le danois, entre autres. Est-ce que vous jouez différemment selon la langue que vous parlez?
Oui, les gestes, tout ça. Je ne suis pas conscient de ça. Je le vois de temps en temps à l'écran quand j'ai fait un film en espagnol ou par exemple un film français, Loin des hommes.
Sur la guerre d'Algérie?
Oui, où j'étais obligé à jouer en français et en arabe. Les gestes sont un peu différents, le ton, le rythme.
Les gestes sont différents?
Oui, je trouve ça. Spécialement l'espagnol, par exemple, ou quand j'ai parlé un peu d'italien, par exemple, dans Green Book, ça m'a aidé à construire le personnage d'une façon différente que s'il parlait que de l'anglais avec mon accent naturel. Bon, la musique de la langue, ça donne des choses inattendues dans les gestes, dans les expressions de... Quelque chose change dans les yeux, les mains, tout.
Et pour terminer sur l'histoire des codes du western, les codes du western, c'est aussi des détails comme par exemple descendre à cheval. Par exemple, moi je ne fais pas de cheval, mais j'ai une idée, parce que j'ai vu plein de westerns, de comment on descend à cheval. Il y a plein de codes comme ça, très précis. Comment vous avez fait avec ça?
J'ai grandi avec des chevaux. Très jeune, oui. Et puis, quand je vois un western, même si c'est un mauvais western, je sais immédiatement si l'acteur est à l'aise et sait monter à cheval. C'est plus important de voir comment...
C'est plus important de voir comment il monte sur le cheval, comment il descend du cheval, ou encore comment il se déplace autour du cheval, que comment il chevauche le cheval.
Et si on voit des westerns ou les cowboys, si je vois qu'il ne sait pas monter bien à cheval...
Ça vous sort du film?
Un peu, oui. Mais il y avait plein de scènes et de films que j'ai... partagé avec quelques acteurs et avec des membres de l'équipe pour dire regarde ce film, c'est un mauvais film, très mauvais film, mais il y a deux acteurs qui savent monter à cheval très bien, c'est intéressant, regarde ça si tu veux.
Des vieux du rock'n'roll encore vert, voici les Stones et le titre c'est Dreamy Skies.
Well I got to take a break from it all, 'cause the wind and the wilderness call, and I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all, and I got to take a break for a while. Well, there ain't chopping up words.
just got to break free from it all. You see, it can't last forever. I'll be diving back in. It's good for my soul. Yes, it's saving my skin. 'Cause I
Viggo Mortensen, comédien, cinéaste, est dans Totemic jusqu'à 10h. Au cas où vous auriez raté le début de cette conversation, Viggo Mortensen disait que son nouveau film était dédié à sa mère. Je note que le premier met en scène une relation entre un fils et son père. Ce premier film s'intitulait Falling.
Dans Falling, il y a quelques scènes qui sont exactement ou presque exactement comme la vie même, ce que je me souviens de mon enfance. Par exemple, aussi, il y a une scène de chasse de canards dans ce film. Et c'est passé pas aux États-Unis, mais en Argentine, quand j'avais 4 ans, avec mon père, c'était exactement ça. C'était l'hiver. Il m'a dit, tu veux essayer ? Et j'ai tiré, j'ai tué un canard, et puis j'ai plongé dans l'eau pour la rattraper. Et c'est la même chose. On devait aller très vite chez nous parce que c'était l'hiver. Et une autre scène dans, par exemple, quand la mère pleure, elle est en train d'écouter de la musique classique et le garçon écoute ça et il écoute la musique, c'est normal parce que sa mère écoute ce genre de musique tout le temps, mais il écoute qu'elle pleure aussi, ça lui intéresse, il descend et il voit ça. Et j'ai vécu quelque chose pareil pendant mon enfance. C'est comme si on voit une photographie et on pense à une histoire. On peut inventer un film d'une photo. Et c'était comme des moments dont je me souviens de mon enfance qui m'ont inspiré à écrire toute une histoire. C'est un point of departure. C'est comment?
Un point de départ.
Voilà, c'est ça.
Et comme pour Falling, c'est vous qui avez composé la musique du film.
Mmh. Elle est plus complexe dans ce film que Falling, mais oui. Et j'ai composé et enregistré la plupart avant tournée, comme avec Falling. Mais cette fois, c'était volontiers, parce que la première fois, c'était à cause de... J'ai attendu 4-5 ans pour trouver l'argent pour tourner. Et pendant ce temps, j'ai commencé à composer de la musique. Pour faire quelque chose.
Pour vous s'occuper.
Oui, oui. Mais quand j'ai vu que ça m'a aidé pendant le tournage, quant à la durée ou le rythme de quelques scènes, je savais que c'était pour moi une bonne idée, même si ça peut sembler contre-intuitif, de faire la musique avant. Pour moi, ça a été un bon guide pour le tournage et pour le montage. J'ai partagé ça avec le directeur de la photographie, avec des autres membres de l'équipe et quelques acteurs aussi, et la productrice, pour dire c'est le temps, c'est le rythme du film, c'est ça qu'on va faire. Et il y avait des moments où, par exemple, quand je rentre chez moi après la guerre, et je descends, il y a une montagne, et puis j'arrive à la maison. J'avais la musique pour ça.
Cette musique composée par Viggo Mortensen, la voici. Olsen, le personnage qu'il interprète, a passé plusieurs années à combattre en soldat valeureux contre les confédérés pendant la guerre de sécession. Et là, Olsen est de retour, dans la maison où Vivienne, la femme qu'il aime, et lui, s'étaient installés avant son départ.
Et je savais la durée de cette transition, et puis je savais qu'on devait commencer ici et pas ici, et pas ici avec le cheval. Pour avoir le timing, pas seulement la durée, mais le ton, le rythme de la scène.
On diffuse la musique au chef opérateur et on lui dit, voilà, tu vois, là, t'écoutes, il y a telle lumière, tel décor, enfin, ça fabrique des images, en fait.
Je pense que oui, t'as raison, c'est pour ça que je l'ai fait. Ça m'a aidé, en tout cas. Et à la fin, je savais que la dernière scène, avec la dernière image, ça allait être une longue scène, 7 minutes, 40, à peu près. Et j'ai composé la musique pour ça, bien avant de tourner. Et l'idée, c'était de pouvoir réfléchir à la fin, voir une belle image, au coucher du soleil.
Sur la mer.
Sur la mer, et de visiter les thèmes musicaux du film. Si on a aimé le film jusqu'à ce point, il se peut qu'on reste au cinéma pour ressentir, pour penser, pour réfléchir sur ce qu'on a vu, ce qu'on a senti.
Rester assis même si c'est fini.
Ouais, et on visite des moments dans le film, des personnages. On pense à Vivienne, on pense à Olsen, ou on pense à la relation, et on pense à l'avenir. J'aime les films, quand le film est terminé, l'histoire est terminée, elle n'est vraiment pas terminée, parce qu'on pense, et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
La toute dernière séquence de cette émission, c'est une photo. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ok.
Alors, c'est bon?
Ça va apparaître.
T'as oublié quelque chose?
Pardon?
T'as oublié quelque chose? Question?
Je me demandais si, pendant les journées de promo comme ça, quel est le plus gros mensonge que vous ayez raconté?
J'essaye de ne pas le faire parce que c'est plus facile. Parce que si on commence avec un mensonge, on doit se...
Il faut être cohérent.
Cohérent et se souvenir après pour la prochaine entrevue. Mais moi, je ne sais pas le faire. Si on est content avec le film, on n'a pas envie ni besoin de mentir, je pense.
La photo est développée. Ça vous va?
Ouais.
Vous vous reconnaissez?
Ouais, c'est moi. Attentif.
Merci beaucoup, Viggo Mortensen.
Merci beaucoup.
Jusqu'au bout du monde, Dead Don't Hurt pour le titre anglais, est le deuxième long métrage de et avec Viggo Mortensen, sans oublier Vicky Krieps, qui tient le rôle principal. Le film est en salle mercredi prochain, 1er mai. Koya Nguyen réalise Totemic et c'était avec Benjamin Wagon ce matin. Perrine Malinge programme les invités, Ilinka Negulesco prépare l'émission et Jean-Baptiste Audibert choisit nos disques. La semaine prochaine, c'est Talon, Résille, Goût du jeu et chanson avec Caroline Loeb. Suivra un rendez-vous avec la comédienne Goldshifteh Farhani. Et tout de suite, vous le retrouvez lui, c'est Ali Rebehi. Salut Ali!
Bonjour Rebecca, eh bien ce matin nous célébrons le plaisir de regarder les films de Steven Spielberg. Et vous Rebecca, on vous retrouve évidemment dans Le Masque et la Plume, dimanche à 10h et à 20h.
A tout de suite.
Filmo, la première plateforme de streaming 100% cinéma. Classique, découverte, cinéaste d'aujourd'hui et de demain. Chaque mois, retrouvez des milliers de films des plus grands réalisateurs et réalisatrices. Avec Filmo, accédez au meilleur des cinémas. Des émissions exclusives, des films inédits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Osez les classiques, osez les découvertes, osez Filmo. Pour seulement 6,99€ par mois. Et en ce moment, profitez de l'essai offert et sans engagement sur filmotv.fr.
Attention, attention, voici une publicité pour Monsieur Meuble. Donc, si vous aimez des meubles inconfortables, mal faits, standards, eh ben n'écoutez pas. Et oui, parce que chez Monsieur Meuble, les meubles sont confortables et bien faits. Mais surtout, vous bénéficiez de conseils personnalisés pour trouver votre meuble idéal et de solutions de paiement adaptées à votre budget. Monsieur Meuble, et vous êtes bien chez vous.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle.
Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
France Inter,
première radio de France.
Et il est 10h sur Inter.